Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 4e. Les guerres de 100 ans. Les Valois. Si heureux jusqu'alors, les Capétiens directs voient brusquement tourner leur fortune. En 14 ans, les trois fils de Philippe le Bel se succèdent au trône, et quand le dernier meurt sans fils, la couronne passe, par application de la prétendue loi salique, à son cousin Philippe de Valois. Les Valois ne sauront pas continuer la précédente dynastie. C'est une brisure profonde, infiniment regrettable. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, va passer un défilé de rois assez médiocres, moins occupés du bonheur public et des nécessités nationales que d'eux-mêmes, de leurs intérêts, de leur succès personnel. Devant l'histoire, leur race ne se rachète que par trois règnes utiles, ceux de Charles V, de Charles VII et de Louis XI, un règne brillant, celui de François Ier. Cette branche nous vaudra les guerres de 100 ans et leurs faits hideux de misère, les vaines guerres d'Italie, les atroces guerres de religion. L'avance insigne acquise par la France sur les autres pays du continent sera ainsi compromise. Pour revenir à la tradition nationale, il nous faut attendre les premiers rois Bourbons. Acclamé par les barons et par l'université, Philippe VI, en prenant la couronne, croit désintéresser l'un de ses deux compétiteurs possibles, Philippe d'Évreux, en lui abandonnant la Navarre. Son autre concurrent, Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, rechigne d'abord à lui prêter hommage pour ses fiefs français, la Guyenne et le Ponthieu. Il s'y résout pourtant par crainte de confiscation. Pour l'attaquer de face, le Valois lui paraît trop puissant. Mais bientôt Édouard III et Philippe VI, restés jusqu'alors dans une expectative malveillante, en viennent à l'hostilité déclarée. La guerre véritable éclate en 1337. Cette guerre, à la vérité coupée en deux par un long intervalle de trêve, va durer au total plus d'un siècle et conduire la France au fond de l'abîme. Les hostilités se réduisent pendant 3 ans à des sièges de châteaux et à des combats de corsaires. Mais en 1340, la flotte française tout entière est détruite devant le port de l'Écluse, aux bouches de l'Escaut. C'est un grand désastre, une sorte de Trafalgar qui nous bannit de la mer. Après une lutte sans relief en Bretagne, le roi d'Angleterre, avec une flotte de 1200 navires, débarque à La Hougue en juillet 1346. Point de résistance d'abord. Il prend Cherbourg, Valognes, Saint-Lô, dévaste Caen. Il remonte alors vers la Seine, jusqu'à Poissy. Les Parisiens voient flamber Saint-Cloud. Crécy, puis Poitiers. Sortant enfin de sa bizarre inertie, Philippe assemble son armée. Édouard se retire alors vers Beauvais, suivi par les Français, et ayant lestement passé la Somme, s'établit à la lisière de la forêt de Crécy. Ses troupes s'y reposent et s'ordonnent. Philippe accourt dans un déluge de pluie. Il devrait renvoyer l'attaque au lendemain. Sa chevalerie pousse de l'avant. Les archers génois ne peuvent tirer. L'humidité a distendu les cordes de leurs arbalètes. D'ailleurs, le bruit des bombardes anglaises les effare. Philippe, hors de soi, commande de tuer cette ribaudaille. Ses chevaliers, tête baissée, font sur les malheureux. Dans cette mêlée, les flèches anglaises tombent en grêle mortelle. Les chevaux s'affolent, démontent leurs cavaliers. Un corps de haut seigneur, le comte d'Alençon en tête, se ferait pourtant un passage jusqu'aux chevaliers anglais, mais ils sont accablés par le nombre. Les coutilliers gallois les entourent et les taillades sans merci. Dès lors, la journée est perdue. Philippe, qui a bravement payé de sa personne, quitte des derniers le champ de bataille. Dans la nuit, il vient demander asile au châtelain de Broye. « Ouvrez » crie-t-il au vassal indécis. « C'est l'infortuné roi de France !» Après la prise de Calais, les Anglais garderont plus de 2 siècles cette porte ouverte sur la France. Embarrassé par une révolte de l'Écosse, Édouard s'en tient à ses succès et pour rentrer chez lui signe une trêve. Le fils de Philippe VI, Jean II, dit le bon, c'est-à-dire le brave, est plus déplorable encore. Un butor au visage hirsute, aux yeux vagues, un sot violent et puéril, entêté de gestes d'éclat. Pour chasser le prince de Galles qui dévaste tout le centre de la France, se gorge de butin, le roi Jean réunit à Chartres une grosse armée. Il a tant de chevaliers autour de lui que, méprisant, il renvoie les milices des bonnes villes. Le prince de Galles l'attend près de Poitiers, avec une douzaine de 1000 hommes bien retranchés sur le coteau de Maupertuis. Avec des forces 4 fois supérieures, certain de vaincre, le roi attaque à l'étourdi, engouffre sa cavalerie dans un chemin creux où les archers anglais ont beau jeu de la massacrer. C'est un nouveau, plus triste Crécy. Jean le Bon sauve l'honneur en se battant à pied avec un enragé courage, son jeune fils, Philippe le Hardi, guidant les coups de sa hache d'armes. « Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite !» crie l'enfant, et les morts de s'amonceler autour du roi. Mais assailli de tous côtés, il lui faut enfin se rendre. Le prince de Galles le traite à grand respect, mais l'envoie à Londres avec 4 navires chargés de prisonniers. La paix avec l'Angleterre est conclue à Brétigny le 8 mai 1360. Terriblement dure, elle livre à Édouard le Ponthieu, le Poitou, la Guyenne et ses dépendances, mais elle sauve la Normandie, le Maine et la Touraine. Pour rançon, le roi Jean paiera 3 millions d'écus d'or et remettra en otage 2 de ses fils. Le misérable prince, festoyé à Londres, revient à Paris qu'il trouve pauvre et sombre. Sous prétexte qu'un de ses otages s'est sauvé, il regagne la joyeuse Angleterre où il meurt enfin, ayant accumulé les pires fautes qu'on puisse reprocher à un roi. Un règne réparateur, Charles V. Le fils de Jean le Bon, régent pendant la captivité de son père sous le nom de Charles V, recueille son piteux héritage. Par certains traits, le jeune roi rappelle Philippe Auguste. Son règne à lui aussi sera un règne réparateur. Il est petit, chétif, maigre, pâle. Son estomac débile refuse la plupart des aliments. Sa main droite enflée lui interdit le maniement des armes. Il vit dans sa chambre, entouré de clercs, de médecins et d'astrologues. Ce n'est plus un chevalier, mais un homme de cabinet, un savant, d'où son surnom, le sage, qui ne dit autre chose. Sans goût pour le risque, il est habile, tenace et constant. Il saura s'entourer pour le mieux. Avec lui, la France va respirer, fermer ses plaies et refleurir. Son lieutenant militaire est un breton de petite noblesse, Bertrand du Guesclin. Soldat vigoureux et avisé, il est fait pour la guerre et non pour les tournois. Il ne met plus de courtoisie dans la bataille. Il ne s'occupe que de la gagner et pour cela se sert du terrain, s'appuie sur la population, ruse et trompe l'ennemi autant qu'il peut. Charles V reprend la lutte contre les Anglais. Il a refait ses finances, réorganisé ses troupes, pour la plupart soldées, contracté d'utiles alliances, construit une flotte solide qui de Rouen va menacer les côtes et les communications de l'adversaire. Il est prêt. Son plan de guerre est simple, éviter désormais les rencontres en grand arroi, incertaines et coûteuses, lasser l'ennemi, l'effriter par des pièges, des embuscades, une incessante guérilla. Les Français, en 3 armées, envahissent les possessions anglaises, Picardie, Auvergne, Guyenne. Une 4e harcèle le duc de Lancastre, qui est débarqué à Calais. Les Anglais, selon le calcul de Charles, sont lentement usés. En vain ravage-t-il, brûle-t-il le pays. Laissez, dit le roi, ils ne pourront me toler mon héritage pour toutes ces fumières. Du Guesclin, fait connétable, se rend maître du Poitou et de La Rochelle. Partout, villes, bourgs, châteaux ouvrent leurs portes aux soldats du roi de France. Isolé, virtuellement vaincu, le vieil Édouard III, avant de mourir, demande une trêve. Dès qu'il expire, aidé par la flotte de Castille, la flotte française, sans cesse accrue, cingle vers les ports anglais du sud, entre dans la Tamise, épouvante Londres. À ce moment, l'ennemi ne possède plus en France que Calais, Bordeaux, Bayonne et Dax. Charles a reconquis et restauré son royaume. Par malheur, ce précieux règne va précocement finir. Charles V meurt à 43 ans, en 1380, dans son château de Beauté-sur-Marne. Lui disparu, tout vacille, et la destinée de la France est remise en suspens. Le roi fou. Pour successeur, ce prud'homme laisse un enfant de 12 ans, né d'une mère demi-folle. Ses 4 oncles, les ducs d'Anjou, de Bourgogne, de Berry et de Bourbon, s'arrogent le gouvernement. Ils n'ont en tête que leurs propres intérêts. Anjou vole le trésor pour conquérir le trône de Naples. Bourgogne épuise la France pour engraisser ses domaines de Flandre. Le voluptueux Berry la ruine pour soutenir son luxe. Seul le duc de Bourbon, assez honnête homme, pourrait servir, mais on l'écarte. Il restera sans influence. Sensible au mécontentement général dont il perçoit l'écho, le jeune Charles, parvenu maintenant à sa majorité, secoue la tutelle de ses oncles. Il rappelle au pouvoir les vieux conseillers de Charles V. Ces petites gens, ces marmousets, comme disent dédaigneux les nobles, gouvernent avec sagesse. Le roi, pendant ce temps, va chercher dans le midi d'éblouissantes fêtes. Ce grand jeune homme, aux formes athlétiques, mais de sang pauvre et de cervelle fragile, s'épuise en tournois, en banquets, en galanterie. Épris d'aventure, comme la plupart des Valois, et croyant vivre un roman, il a pris pour emblème un cerf ailé, animal de féerie, qui, les bras dressés, voile le rêve. À peine remis d'une fièvre chaude, il apprend avec colère que Clisson, son connétable, vient d'être assailli par un émissaire du duc de Bretagne et laissé pour mort. Aussitôt, sans entendre d'avis, Charles marche contre le duc à la tête de son armée. En traversant les bois du Mans, il est frappé d'insolation. Près de lui, son page, ayant laissé tomber sa lance sur le casque porté par un autre page, le roi qui cheminait à moitié endormi sur son cheval, sursaute au bruit. Il tire l'épée, criant « Suce au traître !» se jette sur les hommes de sa suite, en tue quatre, avant qu'on ait pu le maîtriser. Désormais, il ne sera plus qu'un malade, un fou, d'ailleurs intermittent. Le frère de Charles VI, le duc d'Orléans, non sans difficulté, obtient la régence. Il est obligé de partager le pouvoir avec les oncles Berry et Bourgogne. Les marmousets sont chassés ou emprisonnés. Clisson doit s'enfuir en Bretagne. De nouveau, désordre sans frein, profusion, pillage du trésor exsangue. Jean sans peur, héritier du duc de Bourgogne, ayant fait assassiner le duc d'Orléans, la France se partage en deux camps atrocement ennemis. D'un côté, les Bourguignons, flanqués des Flamands, des Picards, des Normands. De l'autre, les Armagnacs, menés par Bernard d'Armagnac, beau-père du fils aîné d'Orléans, que soutiennent les provinces du Centre et du Midi. Les deux factions se disputent le roi. Elles ravagent le pays, brûlent, torturent et pillent à l'envi, rivalisent de férocité, faisant tant de cadavres qu'on ne les enterre plus, les laissant aux chiens. La France livrée aux Anglais. C'est alors que le second chapitre des guerres de Cent Ans, le plus dramatique, après 35 années de trêve, s'ouvre par le débarquement des Anglais en Normandie. Leurs troupes, assez mal en point après la prise de Harfleur, remontent vers le nord, passant la Somme à Nesle, se dirigeant vers Calais pour y prendre leur quartier d'hiver. Une grande armée féodale, commandée par le connétable d'Albret, frère du comte d'Armagnac, se porte à leur rencontre pour leur couper le chemin. Le choc se produit à Azincourt le 25 octobre 1415. C'est un nouveau Crécy. Les chevaliers français, stupidement tassés en trois lourdes masses qu'empêtre encore une boue gluante, sont assommés, égorgés par les coutiliers anglais. 8000 hommes, 7 princes du sang, 120 bannerets, meurent ainsi misérablement avec le connétable d'Albret. Se tenant avec ses troupes à l'écart de la rencontre, Jean sans peur a délibérément trahi la cause nationale. Il veut reprendre Paris. Il y galope. Bernard d'Armagnac occupe solidement la ville avec 6000 Gascons. Mais le duc de Bourgogne, établi à Lagny, affame la ville. Les Parisiens n'en peuvent plus de privation et de peur. Ils ouvrent la porte Saint-Germain aux Bourguignons. Ceux-ci occupent la cité et, s'emparant du roi, le promènent à cheval par les rues, en vieux habits, riant de son rire hébété. Contre les Anglais devenus trop puissants, Jean sans peur se rapproche du jeune dauphin Charles, qui se maintient petitement dans quelques provinces. Mais dans une conférence, au pont de Montereau, une altercation se produit. Croyant le dauphin menacé, ces gens se jettent sur Jean sans peur et de leurs haches d'armes lui fendent la tête. Ce meurtre, qui n'était pas prémédité et qui semble un guet-apens, a des conséquences profondes. Le dauphin perd toute autorité. Le fils de Jean sans peur, Philippe le Bon, par vengeance, s'entend avec la reine Isabeau pour livrer le royaume aux Anglais. Le 21 mai 1420 est signé l'ignoble, l'inexcusable traité de Troyes. Le roi d'Angleterre Henri V épousera la fille de Charles VI et, après la mort de son beau-père, prendra la couronne des Lys. En attendant, il gouvernera comme régent. La France, de fait et de droit, est annexée à l'Angleterre. Mais Henri V ne régnera pas sur la France. Deux ans plus tard, ce dur prince, tout à la guerre et à la politique, meurt, jeune encore, avec pour héritier un enfant de 10 mois. Peu de semaines après, Charles VI s'éteint à son tour dans ses haillons, sa vermine et sa solitude, mais jusqu'à la fin aimé de son peuple qui suit en pleurant son cercueil. Quand il est descendu dans sa fosse à Saint-Denis, le héros d'armes s'écrie « Dieu accorde bonne vie à Henri VIe, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre. » À Bourges, le dauphin se fait proclamer roi sous le nom de Charles VII. Il a 19 ans. Un adolescent grêle, point guerrier ni chasseur. Hésitant, soupçonneux, il paraît mou, mais réfléchi, pourra devenir sage. Au reste, froid de cœur comme de figure, il parle bien. La France du centre et du sud l'a reconnu. Il a peu d'argent, une faible armée composée de mercenaires. Avec ses ressources, il semble avoir peu de chances de reconquérir les provinces perdues. Seulement, autour de lui, indécis encore, mais qui gagne et croit, flotte une idée, ou plutôt une force plus subtile, quelque chose qui ressemble à notre sentiment de la patrie. Charles demeure, pour la masse des Français obscurs, sans intérêt ni parti, le vrai roi de France. À leurs yeux, le jeune Henri VI n'est que le roi des Anglais. Ce sentiment national, dont un avant-rayon avait lui à Bouvines, il naît cette fois de la détresse, du désespoir où ces guerres sans fin, sans pitié, ont jeté le peuple de France. Tandis que les princes, les seigneurs, ne songent qu'à eux, se montrent presque tous dépravés, avides, frivoles ou lâches, que leurs hommes d'armes, soldats brutaux, le plus souvent étrangers, vont à qui les payent, l'attachement au roi légitime se lève et palpite et agit chez les paysans, les magistrats, les prêtres, les soldats, les poètes. Il va trouver son expression la plus haute dans une bergère, Jeanne d'Arc. Du bûcher de la martyre, de la sainte française, il recevra une ardeur qui gagnera par onde le pays entier et désormais ne s'éteindra plus. Le miracle, Jeanne d'Arc. Nous sommes ici devant l'un des faits les plus surprenants de l'histoire. Rien de tel n'est jamais arrivé dans aucun pays. La France était réservée dans sa misère et l'abandon de ses chefs de produire cette fille des champs qui va se faire capitaine pour la libérer. En cette occasion, l'analyse et la critique sont vaines. Seul le cœur peut comprendre le premier miracle français. Jeanne d'Arc est née le jour des rois de 1412 à Domrémy, ville champenoise de la vallée de la Meuse, enclavée dans la terre lorraine. Domrémy relève de Vaucouleurs, qui, telles plusieurs petites places parmi les confins de la Champagne, tiennent encore pour Charles VII. Dans ce pays de marche, si foulé par les invasions, le peuple est fort hostile aux Anglais, aux Bourguignons. Plus qu'ailleurs, on s'y sent français. Les parents de Jeanne sont des paysans aisés. Elle n'apprend à lire ni écrire, mais sa mère lui enseigne le pater, le credo, les rudiments des choses saintes. Pieuse, douce, obstinée, assez solitaire, cette enfant brune aux yeux gris-bleus garde ses moutons dans les prairies semées de bosquets et de fontaines où flotte le souvenir des fées. Elle y file la laine et prie ses saints préférés, Saint-Michel, patron des Valois, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, de délivrer le royaume. Devenue forte et belle-fille, étant au jardinet paternel, elle aperçoit un jour des formes dans une clarté, entend des voix, et ces voix disent « Bas au secours du roi de France !» Jeanne résiste longtemps, 3 ou 4 années, mais quand on apprend à Domrémy qu'Orléans est assiégé, elle n'y tient plus. En cachette de son père, elle se rend à Vaucouleurs, est mal reçue du capitaine, Robert de Baudricourt, Soudard, qui l'a fait d'abord exorciser. Jeanne ne se décourage point. Rien ne la découragera plus. Elle s'est donnée. Dût-elle user ses jambes jusqu'aux genoux, elle ira au dauphin, dit-elle, et le mènera sacré. Si le capitaine reste incrédule, les gentilshommes de son entourage et surtout le peuple de Vaucouleurs approuvent la bergère, disent leur foi dans sa mission. Baudricourt fait alors prévenir le roi. Charles est à ce moment où, désespérant de tout, on se raccroche à la moindre espérance. Que Jeanne vienne! De bonnes gens se cotisent pour lui acheter un cheval et l'équiper. Partie en habit d'homme avec 6 soldats, la jeune fille traverse sans encombre ces grands pays dévastés, sans route, qu'infestent les bandes armées, et arrive à Chinon, où se tient la cour. La Trémoille, qui négocie sous main avec le duc de Bourgogne, veut l'écarter et les gens de guerre dédaignent un tel secours. Admise enfin en présence du prince, qu'elle distingue du premier regard, bien qu'il se soit confondu à dessein dans un groupe de courtisans, elle va droit à lui et tombe à genoux. « Gentil dauphin, dit-elle, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Le roi des cieux vous montre par moi qu'il serait sacré et couronné en votre ville de Reims. » Le jeune roi, chétif et cagneux, à longue face mélancolique, la tire à l'écart. Elle lui annonce, la voix assurée, « Je te dis, de la part du Messire, que tu es vrai héritier de France et fils de roi. » C'est là vaincre une inquiétude secrète de Charles. Ils ont ensuite un long entretien d'où le roi sort transfiguré. Bien que dès lors il ait pris foi en elle, Jeanne est pourtant soumise à Poitiers à plusieurs examens de prêtres, d'avocats, de matrones. La fille des champs répond avec une verve drue à toutes les questions. « Croyez-vous en Dieu ?»« Certes, et mieux que vous. »« Quelle langue vous parle vos voix ?»« Meilleure que la vôtre. » Comment la presse de donner des signes de sa mission ?« Je ne suis pas venu à Poitiers pour faire des signes. » »« Comment conduire à Orléans avec peu ou beaucoup d'hommes d'armes ?»« Je ferai lever le siège, ce sera mon signe. » Le conseil hésite comme Baudricourt a hésité à vos couleurs. Comme à vos couleurs, c'est le peuple qui tranche. Partout où paraît Jeanne, il l'entoure, l'acclame, baisse ses mains, ses habits. « Cette fille est envoyée par Dieu » crie-t-il avec des larmes. « Elle nous sauvera !» Le conseil, la cour, cède et le roi. Jeanne est armée en capitaine, avec des gens, un confesseur, une maison. Elle prend un étendard blanc, jonché de fleurs de lys, où, au-dessus de figures divines, on lit Jésus-Maria. Son épée est une vieille lame découverte dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois. Elle ne s'en servira jamais. Ses mains, en aucune occasion, ne verseront le sang. D'Orléans à Reims. Elle entre à Orléans de nuit le 29 avril avec 200 lances. Dunois, Lahire, rude soldat l'accueillent avec respect. Le peuple qui désespérait se sent réconforté. Tout succède à Jeanne. D'importants secours pénètrent dans la ville. Les Anglais, affaiblis par la longueur du siège, défendent assez mal leur Bastille. Jeanne emporte le 7 mai la principale, les Tournelles, après un vif combat où elle est légèrement blessée. Le 8, perdant courage, Talbot et Suffolk abandonnent fort, bombardent prisonniers et se retirent vers le nord. Orléans est délivré. Un frisson admirable soulève de proche en proche les provinces fidèles. La France, pour la première fois vraiment la France, se redresse et s'exalte sous le regard de la fille de Dieu. Jeanne voudrait aussitôt courir à Reims. Le conseil où domine le jaloux, la trémoille, s'y oppose. La Pucelle doit auparavant reprendre les places de la Loire. Elle se soumet et libère Jargeau, Beaugency, Meung. À Patay, où les Anglais livrent en bataille, elle bat Talbot et le fait prisonnier, le 29 juin. Alors, toutes les oppositions tombent. Jeanne peut entraîner Charles vers Reims. Une foule extasiée grossit leur cortège. Le 15 juillet, Charles entre à Reims. Le 17, il est sacré. Il est sacré selon les anciens rites, entouré de tous les pères, à l'exception du duc de Bourgogne. La Pucelle se tient près de lui, son étendard à la main. Quand Charles a reçu l'onction sainte, elle embrasse ses genoux en pleurant de joie. « Gentil roi, dit-elle, à présent est accompli le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre, montrant que vous êtes vrai roi et qu'à vous seul doit appartenir le royaume de France. » Les vivats battent les murs de la vaste nef. Derrière Jeanne, la France entière est là qui crie « Noël !» Au printemps, Jeanne, presque seule, reprend les chemins du nord. Elle se jette dans Compiègne, assiégée par les Bourguignons, le 23 mai 1430. Ce même jour, elle provoque une sortie. La poignée d'hommes qui la suit est mise en déroute. Jeanne donne de sa personne pour protéger leur retraite. Elle est entourée, assaillie, prise enfin. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, après un long marchandage, la livre aux Anglais. Charles VII ne tente rien pour la sauver. La France s'émeut, le supplie du fond de ses chaumières. En vain, il demeure dans son froid silence. Ses conseillers font mieux. Ils désavouent ou brocardent l'héroïne qu'ils ont toujours détestée. Le procès de Jeanne d'Arc. Mise au pain et à l'eau, enchaînée dans la grosse tour de Rouen, où elle est ferrée par les mains et les pieds, après une longue instruction, sans relâche épiée, livrée aux insultes de ses geôliers, la pucelle comparée enfin devant ses juges. Surveillé par l'anglais Warwick, ces hommes côteleux que préside un prélat docte et rusé, Pierre Cochon, évêque de Beauvais, l'interroge tour à tour pour la lasser, l'effrayer, surprendre en elle l'hérésie. À leurs questions épuisantes, elle répond avec candeur et sagesse, en fille pure, en droite chrétienne, en courageux soldat. « Je viens de par Dieu, je n'ai que faire ici, renvoyez-moi à Dieu. » « Croyez-vous, Jeanne, être en état de grâce ? Si je n'y suis, Dieu va y m'y mettre. Si j'y suis, Dieu va y m'y tenir. » Pourquoi votre étendard fut-il porté en l'église de Reims au sacre plutôt que ceux des autres capitaines ? Il avait été à la peine, il était juste qu'il fût à l'honneur. Du 21 février au 9 mai 1432, elle subit 16 interrogatoires. Ses réponses étonnent et découragent les juges. Tout prévenu qu'il soit, plusieurs ont les yeux mouillés. On n'a pas pu la prendre en défaut. En dépit de Cochon, le droit canonique la protège. Le tribunal n'ose prononcer la mort. Jeanne finit par signer d'une croix une abjuration captieuse sous la promesse qu'elle serait enlevée à la garde des Anglais et remise aux gens d'église. Alors, par grâce et modération, on la condamne à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau d'angoisse pour pleurer ses péchés. Quand la sentence est lue, Warwick, déçu, injurie les juges. Des Anglais les menacent de l'épée. « N'ayez crainte, » répond-il, « nous la rattraperons bien. » Il ne faut à Cochon et ses acolytes que 3 jours pour la rattraper. Reconduite à sa prison, toujours enfermée, entourée de 4 ou 5 soldats anglais, même la nuit, et dit son confesseur, le frère Martin l'advenu, battu par eux et foulé aux pieds, la pauvrette a quitté ses habits d'homme et pris une robe de femme. Comme elle était au lit, un archer, par ordre, la lui cache. Elle doit se vêtir de nouveau en garçon. Cochon aussitôt constate et dénonce. Jeanne est retombée dans son péché, elle relapse. Cette fois, on va la brûler vive. Les régents d'Angleterre seront satisfaits. La Sainte au bûcher. Le 30 mai, de grand matin, Martin l'advenu vient dans sa prison lui annoncer qu'elle va mourir. Jeanne est prise de faiblesse humaine, elle tremble et tord ses mains. « Hélas, gémit-elle, faut-il que mon corps net et entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd'hui consumé et réduit en cendres ? Ah ! J'aimerais mieux être décapité cette fois que d'être ainsi brûlé. Oh ! J'en appelle à Dieu, le grand juge, des torts qu'on m'a faits. » Puis elle reprend contenance et demande à se confesser. Martin lui donne la communion qu'elle reçoit avec ferveur. La prison s'emplit de ses juges. L'Inde extendue, elle dit à Cochon « Évêque, je meurs par vous. » Vêtue d'habits de femme, on la fait monter sur une charrette. Le frère Martin est près d'elle, et aussi le bon moine Augustin Isambard, qui a essayé de la sauver des pièges que lui tendait Cochon. Les chevaux, au pas, la mènent vers la place du vieux marché. 800 Anglais, armés de lances, font la haie, rudoyant la foule qui derrière eux tremble et prie. Par les étroites rues, encombrées de pignons et d'enseignes, le cortège avance. Il y a des visages à toutes les fenêtres et des larmes sur tous les visages. Debout de sa robe blanche, la pucelle sursaute au chaos du chemin. Elle a cru jusqu'alors que le roi la délivrerait, ou le peuple, ou ses saintes. Mais ses saintes se sont tues, le peuple a peur et Charles l'a abandonnée. Maintenant elle n'a plus d'espoir. « Ô Rouen, Rouen » soupire-t-elle, « dois-je donc mourir ici ?» Sur une place, une estrade a été dressée où monte le cardinal de Winchester, ordonnateur du procès, et ses prélats. Sur un autre échafaud, le prédicateur, les juges, le bailli prennent place, puis la condamnée. Tout près, un socle de plâtre supporte un échafaud, haut comme une tour et que surmonte un poteau. Cochon lit la sentence définitive. Jeanne s'est mise à genoux. Tout haut, elle prie, invoque Dieu, la Vierge et les saints. Elle demande pardon à tous et supplie qu'on dise des messes pour le repos de son âme. Elle est si humble, si touchante, que Cochon lui-même s'est mis à pleurer, et le cardinal, et tous les Anglais. L'atroce cérémonie dure depuis des heures. Il est midi. Les soldats s'irritent d'attendre. « Prêtre, crie-t-il, nous ferez-vous dîner ici ?» Et la foule, oubliant sa terreur, gronde, jette des pierres. Il est temps d'en finir. encoiffe Jeanne d'une mitre de carton sur laquelle sont écrits ces mots « hérétique, relapse, apostate, idolâtre ». Puis les soudains la précipitent au bas de l'estrade et la poussent vers le bûcher. Dans cette ruée, au milieu des cris de piété du peuple, Jeanne, éperdue, demande une croix. Un archer lui tend, dérision ou charité, une croix faite de deux brindilles qu'elle baise et applique dévotement sur sa chair. Jetée, hissée sur la tour de Fagot, le bourreau Geoffroy Terrage la lie au poteau. Jeanne sanglote. Ah, Rouen, j'ai grand peur que tu ne souffres de ma mort. Tandis que jaillissent les premières flammes, frère Isambard reste devant elle, le plus haut qu'il peut, la croix de l'église Saint-Sauveur qu'elle avait réclamée. Jeanne y attache ses yeux. Le corps défaillant, mais l'âme ferme, dans les flots de fumée qui ne laissent plus voir que son beau et douloureux visage, elle crie, si fort que tous peuvent l'entendre, « Oui, mes voix étaient de Dieu, mes voix ne m'ont pas trompé. » Plus bas, mais distinctement encore, elle prie ses saintes. La flamme monte, l'atteint, dévore ses vêtements, mord ses membres. Suffoquée, elle incline la tête sur l'épaule et pousse un dernier cri, « Jésus !» La pucelle est morte. Le bourreau écarte le brasier et montre le corps à la foule. Puis il entasse de nouveau les fagots et le rend au feu. Le peuple s'est tu. Les Anglais sont saisis d'épouvante. Un d'eux dit « J'ai vu de sa bouche s'envoler une colombe. » Et un autre, secrétaire du roi Henri, « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. » Il a raison. La mort de Jeanne va bouter l'ennemi hors de France. C'est ce jeune corps, livré au feu, cette douce figure où l'effroi s'est perdu dans l'extase, cette prière jetée si droit vers le ciel, qui vont délivrer notre sol et rendre à soi notre pays. Jamais dans aucun temps ne sera plus éclatante la revanche de l'esprit sur la force, du dévouement sur l'injustice. Ce n'est pas une colombe qui s'est envolée des lèvres de Jeanne à son dernier souffle, c'est bien mieux, c'est l'âme française. Ce jour-là, elle a pris sa forme et trouvé ses ailes.